J'ai la lumière juste au-dessus.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 23e épisode de la 3e saison de Culture sans Heure. C'est bien sûr l'émission hebdomadaire qui débriefe les matchs du Racing et l'actu du peuple sans et hors. Une grande partie de la première mi-temps sera bien évidemment consacrée au derby qui a vu les Lensois et les Lillois se quitter dos à dos samedi dans un match où chaque équipe aura eu sa mi-temps finalement. Qu'avez-vous pensé de la rencontre? Dites-le nous dès maintenant en commentaire. Juste avant, avec nos chroniqueurs, on réagira également sur l'élimination du Racing de la Coupe de France. À la pause, on jouera avec le quiz de Culture sans ailleurs. En deuxième partie d'émission, on ouvrira un débat concernant Brice Samba, gardien lensois, de nouveau héroïque, et d'ailleurs ce week-end. En cas de sélection en équipe de France, eh bien Brice Samba devra-t-il, pour vous, inévitablement quitter le RC Lens? Vous réagirez avec nous également tout à l'heure dans le chat de l'émission. Et puis en fin d'émission, justement, on partira au stade Gabriel Montpied où Lens se déplacera pour affronter Clermont dimanche. Pour m'accompagner dans ce rendez-vous Culture sans meilleur de ce lundi soir, je vous présente le casting de ce 23e épisode. Il paraît qu'il donne l'apparence d'être un ours grognon lors de ses apparitions dans l'émission. Va-t-il ronchonner ce soir? Damien d'Hervé-Duven est avec nous. Salut Damien.
Salut Valentin, salut tout le monde.
Allez, il n'est finalement pas si infaillible qu'il n'en a l'air. Et dans un moment d'égarement, il s'est laissé lui aussi aller au semi-catastrophisme à chaud après la rencontre de samedi. Antoine nous accompagne. Salut Antoine.
Salut à tous.
C'est la crise.
C'est la crise ou pas? On en parle dans un instant. Il n'a pas eu la chance d'être à Bollard samedi, mais nous, on a la chance qu'il ait tout de même pu voir le match. C'est Seb Dallet qui est avec nous. Salut Seb.
Salut les gars.
Enfin, si l'incertitude existe pour le Racing sur la fin de saison, aucun doute pour lui. Il sera sur le podium des chroniqueurs Culture sans Heure qui creuse le plus de tunnels. Antoine Combe clôture les présentations. Salut Antoine.
Bonsoir à tous.
Allez messieurs, on va débuter l'émission. Réagissez-vous qui nous regardez dans le chat de cette émission. On siffle la première mi-temps. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Culture sans Heure sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Et puis rendez-vous sur notre site web culturesansheure.com. Vous y trouverez plein d'articles sur le club. Cette semaine aurait pu être qualifiée d'historique. Elle n'a finalement pas réussi à rassurer les plus sceptiques envers le manque actuel de résultats de l'équipe de Francaise. Elle a en revanche été riche en frustrations diverses, mais nous a aussi offert pas mal d'enseignements, et notamment que le Racing est toujours plus que jamais dans la course à l'Europe. Alors, entre déception et espoir, je vous ramène également vers l'édito de Nicolas dans Culture sans Heure, sur culturesansheure.com, l'édito comme un lundi. Avant de revenir plus longuement sur le derby dans un instant, mais si on va commencer quand même par un tour de table sur le match qui s'est déroulé mercredi dernier, le match de Coupe de France du Racing. C'était à Nantes, un match à huis clos. Je vais faire un petit tour de table, je vais vous donner la parole chacun pour avoir un petit peu votre sentiment, votre réaction après cette élimination en Coupe de France, en quart de finale de Coupe de France. Je vais commencer avec toi, Damien.
Eh bien, je qualifierais ce match de frustrant, parce que finalement, à titre personnel, j'ai quand même le sentiment qu'on donne le match à Nantes. On leur offre la victoire, clairement, de penalty. Bon, pour moi, il n'y a pas de... Enfin, pour moi, il y a péno dans les deux cas. Donc, voilà, c'est... C'est vrai, effectivement, qu'il en manque un pour nous. Malheureusement, on tape le poteau une énième fois. Enfin, faut le rappeler, c'est 7 poteaux sur les derniers matchs malgré tout. Donc, on n'a pas de chance de ce point de vue-là. Mais bon, après, on mène au score, à peine l'engagement effectué, boum, le penalty. Ouais, c'est vraiment frustrant. Mais par rapport à ça, j'ai bien aimé, alors on en rediscutera plus tard, mais la réaction de Seko Fofana après le but du Racing justement samedi face à Lille. Mais voilà, ouais, c'est vraiment rencontre frustrante parce que Nantes est prenable. On les a battus il y a deux semaines de ça. On avait marché sur cette équipe, quoi. Donc on savait qu'on était capable.
Dans un contexte un petit peu différent.
Dans un contexte différent, on était à Bollard, certes, chez nous, pas un stade à huis clos. Psychologiquement, il faut se remettre dans ces matchs-là. Peut-être que pour Nantes, c'était plus simple pour eux de jouer dans une atmosphère comme ça, je ne sais pas. Hein, mais c'est vrai que pour donner des consignes ou. Voilà.
Frustration, c'est ça le mot qui. Déception, frustration, c'est un petit peu
la
qui
demi nous
ressort.
Tendait les bras et peut-être une demi à Bollard, quoi.
Ouais. Et puis c'est vrai que ces demi, en tout cas, sur le papier, ont l'air plus que jouables. Antoine, je te laisse la parole sur ce match de Coupe de France. Ton sentiment, toi, ta réaction après cette élimination en quart?
C'est la crise.
C'est la crise, peut-être pas, mais.
Non, mais franchement, match de brin, quoi. Enfin, je sais pas que. Enfin, Damien a quasiment tout dit, quoi. Tu ouvres le score, t'es dans ton match, t'es plutôt dominateur encore une fois, t'arrives à ouvrir le score. Tu reprends les bonnes habitudes de mener et puis bah, en fait tu te sabordes tout seul quoi, sur cette égalisation parce que tu sais très bien que Nantes dans leur contexte, parce que c'est très important parler du match il y a une quinzaine de jours et du match de coupe où Nantes en fait jouait plus ou moins la fin de sa saison sur ce match et voilà et en fait derrière tu redomines, tu as des occasions, sauvetage sur la ligne poteau, enfin bref, Damien a tout dit, et puis derrière, tu te refais punir sur une transition
rapide où tu te fais transférer.
Rapide de Nantes. Et voilà. Et puis moi, je reste toujours aussi frustré de notre histoire avec la Coupe de France qui continue, en fait. De la malchance du tirage jusqu'à ce manque de réussite, c'était vraiment un match. Plus que frustrant, énervant.
On passe à toi, Seb. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette élimination, ta réaction?
Que dire de plus? Pareil, j'ai le même sentiment. Beaucoup, beaucoup de déception, puisque pour moi, la demi-finale était vraiment, vraiment au bout du pied. Donc, des erreurs, un manque de réussite qui est criant ces dernières semaines.
Bon, il y a quand même une équipe en face. Hein. J'ai l'impression quand même qu'on oublie un peu. Il y avait quand même une équipe en face.
Ouais, bien sûr. Il y avait Ganago hein, en face aussi, ouais, qui a fait beaucoup de mal, comme souvent les anciens contre leur club. Donc, c'était sûr. Et non, mais voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis dégoûté, effectivement, parce que je misais beaucoup sur cette Coupe de France au vu des équipes qui restent encore. Et alors voilà, match de merde, franchement, parce que huis clos, je comprends pas en fait. Moi, je comprends pas comment on peut imaginer que la Fédé puisse imaginer un quart de finale à huis clos de Coupe de France. Voilà, je comprends pas. Vu les propositions des deux clubs de jouer sur un terrain neutre, avoir du public, de reverser la
recette, ouais,
la recette. Enfin voilà, il y a des solutions. Moi, je trouve ça complètement nul parce que ça pénalise les deux équipes en fait. Donc je trouve ça complètement nul. Voilà.
Ouais. Bon, la déception en tout cas.
Ouais. Beaucoup, beaucoup de déception. Ouais, vraiment.
Ouais. T'as quelque chose à rajouter, Antoine Combes?
À part mon sentiment de frustration,
c'est un peu celui de tout le monde, hein, finalement. Ouais.
C'est ça. Moi, ben, je suis surtout frustré et je l'ai été encore plus avec l'élimination de Marseille. Ouais. Pour moi, sur les quatre équipes qui restaient, ben, en limite, on pouvait faire office de favori.
Ouais, ou pas. Hein, Marseille,
sachant
qui s'est sorti à Paris, ça peut arriver à tout le monde.
Oui, bien sûr, sur le papier, je parle.
Mais c'est favori, quand ils sont tenants du titre.
Bah, oui, mais s'ils sont là, c'est parce qu'on n'est plus là.
Oui,
tu peux pas dire que avant le match, Nantes est favori contre Lens. C'est non. Moi, je suis pas d'accord. Et le match l'a prouvé parce que pour moi, on doit le gagner. Et juste bon, on a voilà manque de réussite, ce qui nous
coûte un peu les lacunes des derniers matchs.
Ouais, voilà. Et une fébrilité parce que Samba, le cas, pardon, on n'a pas grand chose à faire à part les deux pénalties.
Hein. Les deux pénalties, ouais.
Et puis bon. On a l'habitude maintenant, malheureusement, avec les arbitres. Il ne faut pas l'oublier parce que si tu siffles le penalty sur Danso, ça se trouve, on sera en train de dire tout autre chose sur ce match. On ne saura jamais. Mais ça rajoute à la frustration. Quoi, et je pense que les joueurs eux-mêmes l'ont dit qu'ils étaient archi déçus. Et c'est le sentiment qui prédomine pour tout le monde, surtout aux portes des demi-finales. Et quand tu vois le tirage au sort, on aurait eu la demi-finale à Bollard. Voilà, moi ça va rester dans le coup pendant un moment quoi.
Ouais,
je disais qu'il y avait un adversaire, Valentin, mais au final, effectivement, il y avait un adversaire, mais moi je trouve que sur le match de Nantes, on leur roule dessus. Et on parlait de dynamique. Et je pense que la frustration qui est sortie dans le vestiaire de ce quart de finale perdu de manière Enfin, enfin, je pense que clairement, la dynamique de cette élimination à Nantes, on l'a ressenti sur le match de Lille, petite transition peut-être, mais sur le moment où la fin de match contre Lille ce week-end, on a senti une équipe qui était prise de fébrilité, quoi.
Ben, je
Je
suis
pense
d'accord
que clairement,
et
tu avais une dynamique, tu avais, à mon avis, tu as un peu un rebond de cette élimination. Sur le match, le derby.
un rebond psychologique, un rebond physique aussi, on va en parler hein, justement de ce derby, parce que cette élimination, on s'est dit, bon, voilà, les Lensois vont avoir la rage, vont avoir envie de se rattraper, il y a le derby qui arrive 3 jours après, c'est peut-être l'occasion idéale. On va revenir hein, sur ce derby, hein, justement, on attendait beaucoup de ce match-là, et bien finalement, il y avait des opportunités pour le Racing de réagir face au LOSC, besoin d'être assuré offensivement, besoin d'être assuré défensivement aussi, opportunité de décrocher aussi le LOSC hein, au classement, hein, puisqu'on pourrait prendre 9 points d'avance, 3 points de plus et 9 points d'avance sur eux au classement. C'est aussi ce derby, toujours une fête en tribune, bien sûr, à Bollaert en plus. Score final, un but partout finalement, dans ce match où chacune des équipes aura eu finalement sa période. Le Racing la première, les Lillois la seconde. Pour commencer, est-ce que Seb, tu as assisté à un bon derby pour toi?
Oui, tout à fait. Un derby beaucoup d'intensité. Moi, j'ai vraiment. Ouais, c'était un vrai derby. Alors, c'est plus les derbies comme à l'époque où tu te fais découper à la gorge, tu vois. Donc là, on ne peut plus maintenant. Mais beaucoup d'intensité, vraiment. Donc, c'était très sympa. Vu de la télé, puisque je n'étais pas au stade, mais on a pu ressentir l'ambiance. Et encore une fois, cette qualité de jeu, moi, je trouve vraiment une équipe de Lens. Bon, après, tu auras des questions certainement, mais voilà, globalement, un beau derby, un beau point de prix. Une très belle équipe de Lens en première mi-temps, une très belle équipe de Lille en deuxième. Voilà, la dynamique des deux équipes ne sont pas pareilles. Et je trouve qu'ils ont très bien réagi justement par rapport à l'élimination de Nantes sur cette première mi-temps où franchement, j'ai retrouvé, comme par moment sur Nantes, j'ai retrouvé Lens de la première partie de saison avec beaucoup plus d'allant où on réfléchit un peu moins, on fait tourner un peu plus vite derrière et on se projette. Voilà. Et ça, sur cette première mi-temps, j'ai enfin retrouvé un petit peu le jeu à la lensoise. Je trouve que ces derniers temps, et notamment depuis la reprise en janvier, je trouve qu'on tâtonne un peu trop et on manque de vitesse. Et je trouve que c'est un peu trop, voilà, c'est un peu trop joué à la baballe. Alors que quand on retrouve cet état d'esprit et ne pas calculer, se lancer dans le camp adverse, ben voilà, ça donne une première mi-temps comme contre Lille.
Ouais, c'est vrai que tu as raison, hein, Seb. On a vu un jeu beaucoup plus direct, hein, surtout en première mi-temps. Beaucoup moins de possession finalement du Racing. Et c'est peut-être dû à cette surprise, hein, Damien, au coup d'envoi finalement, cette composition inédite que nous a sortie Francaise. Avec, alors, selon les schémas, hein, offensif ou défensif, mais globalement un 4-2-3-1 aligné par le coach Lensois, un milieu densifié pour essayer justement hein, de prendre ces Lillois à la gorge. Tu as été surpris toi par ce coaching? Est-ce que pour toi c'était une bonne idée de la part française?
Alors, au-delà de nous, je pense que c'est aussi Lille qui a très, très surpris par ce changement tactique. Enfin, franchement, ce derby, au-delà de notre deuxième mi-temps, mais si on prend le derby pour les deux équipes et dans sa globalité, c'est un chef-d'œuvre tactique. Enfin, l'animation de la première mi-temps côté Lens, magnifique. Enfin, Lille prend le bouillon. Hormis, alors là où moi j'ai mis un bémol, c'est qu'on n'a pas d'occasion vraiment franche, hormis une ou deux frappes d'Openda, mais qui partent
Un tir carré seulement sur le match, ouais.
enfin voilà, là où on a pêché, hormis les 3 hors-jeu d'Openda qui donnent lieu à des face-à-face, mais là où on a pêché, c'est vraiment sur les occasions directes. Mais sinon, dans l'animation, on a mis un bouillon au LOSC. Thomasson a été énorme dans la récup. Enfin, franchement, on voit où est son poste de prédilection. Fulgini a apporté une touche technique. Enfin, franchement, c'est la première mi-temps, on retrouvait effectivement, comme disait Seb, notre Racing qui avait de l'allant, qui savait jouer à la balle, qui était direct. Enfin, et puis en deuxième mi-temps, Bon, le LOSC revient avec une autre façon de jouer. Là où en première mi-temps, ils allaient dans l'axe, dans l'axe, dans l'axe, dans l'axe. En deuxième mi-temps, on voit tout de suite les deux ailiers lillois.
Il y a eu un
changement tactique quand je le à la mi-temps.
Ça, mais il mange la ligne en deuxième mi-temps. Et on voit très bien qu'Aïdara ne peut pas suivre parce que lui était forcément plus dans l'axe. On voit que Fulgini n'arrivait plus à redescendre. Bon, Francaise voit très bien les choses. Je pense que tout le monde en tribune le voyait qu'il fallait remettre la défense peut-être à 5 pour dire de tenir le score parce que là, on prenait le bouillon. Certainement que physiquement, avec le match 3 jours auparavant, avant, on a baissé le pied, ce qui peut être logique. Enfin, et c'est là qu'on voit que l'on paye nos 5 ou 6 blessés qui sont dehors. Les Cabot, les Saïd, les Bouxa. Enfin, ça nous aurait fait du bien entre Nantes et le match là de Lille. Clairement, on peut avoir des regrets d'avoir énormément de blessés. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que malheureusement, le Racing traverse une très mauvaise passe. Ouais. Et si là, on n'a pas l'Europe, ça sera surtout lié à ces blessures, quoi.
Bon, on n'y est pas encore, on y reviendra, mais d'abord pour continuer, Antoine Combes, sur cette première mi-temps emballante, c'est vrai qu'on a retrouvé plaisir à voir ce Racing jouer, qui calcule moins, peut-être qui se pose moins de questions, qui envoie le bouillon sur cette équipe du LOSC prise à la gorge.
Ah, moi, la première mi-temps, moi, je me suis régalé hein, de par l'intensité qu'on mettait. Et même si Lille avait la volonté de repartir de très bas, je nous ai trouvé très organisés au niveau du pressing. On savait quand il fallait les chercher très haut, quand il fallait les attendre un peu plus bas. J'ai retrouvé de la cohérence en termes d'animation sans ballon sur phase défensive. Et ce qui n'était pas forcément évident parce que tu changeais de système. Tu passes en 4-3-1. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette première période qui m'a, comme l'a dit Damien, nous a tous surpris. Mais j'ai trouvé ça très efficace. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Si ça peut être l'une de nos solutions pour pallier un peu à des problèmes. Mais bon, ça ne solutionne pas tout parce que, comme Damien l'a dit, en termes de finition des actions, pour amener à des occasions nettes, ce n'était pas encore ça. Mais dans l'animation de la première mi-temps, c'était quand même très intéressant.
C'était en ballon,
voilà, et notamment dans la verticalité, dans l'axe. Moi, j'ai beaucoup aimé les passes verticales qui cassent les lignes et où les Lillois étaient un peu désordonnés. Benjamin André il subissait un peu, le pauvre, au milieu de terrain. Donc, je trouve qu'on a très bien fait sur cette première mi-temps et ce qu'on a malheureusement perdu sur la deuxième.
Ouais, Francaise, Antoine a voulu amener ce surnombre au milieu, hein, finalement, face au schéma tactique du LOSC. Ça a marché, hein, d'ailleurs, puisqu'on l'a vu en première mi-temps. Et ce but arrive, finalement, assez logiquement, même si, finalement, c'est pas un Lensois qui le marque.
Ouais, alors moi, je suis pas trop d'accord sur le fait qu'on ait pris à la gorge les Lillois. En fait, j'ai pris pas mal les datas de Wisecout là pour préparer le match. Et en fait, sur les données pressing, on est vraiment en deçà de Lille. Et en fait, on était plutôt, moi, j'ai l'impression, sur un bloc médian, enfin, vu de la télé en tout cas, mais avec une grosse capacité de projection.
Ouais.
Et je trouvais que justement, c'était plus. J'ai trouvé très intéressant les combinaisons en une touche de balle, petit jeu entre Thomasson, Fulgini, Sotoka et Openda. Et je trouve qu'en fait, on était plus, comme tu disais, dans une prise de profondeur assez rapide sur des récupérations qui étaient, somme toute, pas si hautes que ça.
Non,
oui. Après, oui, le premier but est tout à fait mérité, puisqu'en fait, même si, comme l'a très bien dit Damien, on n'a pas non plus énormément d'occasions très franches, ça vient sanctionner en fait une domination qui est globalement assez homogène sur les 45 premières minutes. Et bon, on parlera certainement de la deuxième mi-temps un peu plus tard, mais c'est vrai que ce qui pose problème, c'est vrai. Moi, je vois beaucoup de théories sur le contre-coup physique. C'est peut-être une donnée, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, on a été pris tactiquement. Et quand bien même on sort plutôt une bonne première mi-temps, je trouve que il y a eu un manque de justesse tout au long de la rencontre technique. J'ai vu beaucoup de déchets techniques. Et je trouve que justement la deuxième mi-temps où Lille a augmenté le curseur, on a vite vu en fait qu'on a un peu perdu le fil du match jusqu'à finir complètement, j'ai trouvé, en panique.
Ouais, en panique et un petit peu cramé quand même, mais on va reparler dans un instant. Hein, mais bon, c'est le sentiment que j'ai eu en tout cas, moi, du stade, mais on en reparle dans un instant. Cette première mi-temps, finalement, en ballante, hein, on mène au score, tout va bien pour le Racing, on se dit ça y est, c'est reparti. On va peut-être pas être le loss dans le derby, on va peut-être prendre les points qu'il faut. Et puis, deuxième mi-temps qui démarre, et là, on voit un Lille qui change de système complètement, qui monte d'un cran, Seb, je ne sais pas ce que tu en as parlé, et un lance privé de ballon dès le début de la deuxième mi-temps.
Ouais, c'est exactement ça. Il ne faut pas oublier en première période la grosse occasion de Lille.
Ouais, Bamba.
Il arrête Samba devant Samba. Bamba,
ouais.
Samba. Voilà. Parce qu'il avait été signalé hors jeu, mais en fait, la VAR nous a montré qu'il n'était pas hors jeu. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. C'était peut-être la plus grosse occasion de la première période et elle était pour Lille. Et sur la seconde période, bah, très rapidement, oui, on voit tout de suite le changement tactique de Lille. Et puis,
ça écarte beaucoup sur les ailes. Hein.
Ouais, tout à fait. Ouais, bah, il y avait à droite, il était toujours tout seul, en fait, effectivement.
C'était Bamba.
Et je pense que Hez l'a vu aussi depuis le début, forcément. Mais voilà, je pense que avant de faire les changements, on sait très bien qu'il aime faire les changements vers la 55, 60e. Voire un peu plus. Et là, je me suis dit qu'il avait attendu volontairement. Et ce qui est vraiment dommage, c'est quand il fait les changements, c'est qu'on prend le but tout de suite derrière, en fait.
Exactement,
c'est vraiment, ouais. Vraiment dommage parce que, avec ce changement qui est intervenu au bon moment, et c'est sur un coup de pied arrêté qu'on prend le but, il me semble, c'est vraiment dommage. Donc, moi, voilà, j'aurais bien voulu voir le reste du match. En menant toujours 1-0 avec ce changement tactique en deuxième. Même si effectivement, on a souffert physiquement, et je pense que très honnêtement, c'est même plus tactique, c'est physique. C'est qu'à un moment donné, tu enchaînes les matchs quand même, tu as beaucoup de blessés, donc t'as pas beaucoup c'est souvent les 11 mêmes titulaires. Heureusement que tu as recruté Fulgini et Thomasson, parce que tu imagines sinon comment tu t'en sors.
Moi, donc, Sébastien, j'ai trouvé qu'il y avait un vent de panique hein, sur Bollard. Hein.
Ouais.
Franchement, oui, dernière demi-heure, les dernières 20 minutes, parce qu'au final, les expected goals de Lille, c'est les premières vraies expected goals, c'est sur leur but. Et derrière, mais ça enchaîne, c'est des vagues.
Mais ouais, on l'a vu, on a vu le nombre d'arrêts de Samba.
Les joueurs paniqués.
Et Lille, ils jouent comme Lens en première partie de saison. Et Lille, ils jouent vers l'avant sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, moi, je pense que c'est une des plus belles équipes de Ligue 1 actuellement, sincèrement. Dans la dynamique en plus, Lille, pour moi, ils sont au-dessus de Lens. Voilà.
Je pense que nos joueurs ont eu peur. Nos joueurs ont eu peur de perdre
le
match.
Non, je pense que physiquement, à un moment donné, c'est dur. C'est dur. Physiquement, à un moment donné, c'est dur.
Il y a peu de changements. Il y a peu de changements pour une équipe fatiguée. Il y a peu de remplacements. Hein. Enfin...
Ah ouais. Oui, mais, ouais, mais c'est là où tu vois un peu la limite de l'effectif aussi. Regarde le banc. Hein.
C'est pour ça que non, t'as Onana, Jean Onana, jusqu'à preuve du contraire. Si
t'as Onana, t'as Pourreba, t'as le Cardinal. Si tu les recrutes, c'est quand même pour les faire jouer.
Je suis d'accord avec vous. Ils ont joué combien de temps sur les derniers matchs?
Bah oui, justement, c'est la question.
On va
en parler d'ailleurs après.
Le Cardinal était titulaire à Nantes.
En tout cas, dans le chat, on a RCL Stad qui nous dit « Fonseca a surtout trouvé la faille à la mi-temps. André Gomez intercalé, Bamba excentré égale Eidara en 1 contre 2, car Fulgini a très vite été émoussé. » C'est ce que nous dit RCL Stad. Ouais. Et il a tout à fait raison.
C'est totalement ça. À la 50e, il était cramé, Fulgini.
Ouais, vas-y Damien, continue.
À la 50e, Fulgini était clairement cramé. On voyait très bien, enfin, vu du stade, on voyait très bien qu'il ne faisait plus du tout les efforts défensifs pour revenir. On voyait Aïdara justement lui faire des appels en disant redescends, parce que je ne peux pas à la fois couvrir vers l'axe et couvrir sur l'aile. Parce qu'en fait, on voyait quand même que finalement, dans l'animation défensive, en deuxième mi-temps, les Danso et les Gradites avaient la fâcheuse tendance justement à pas coulisser de la bonne manière. Ils coulissaient comme la défense à 5, mais pas comme dans une défense à 4. Et on voyait qu'à chaque fois, entre Danso, Gradite, que ce soit Jonathan David ou Angel Gomez d'ailleurs, s'intercalait entre les deux, ce qui en fait gênait un petit peu l'animation défensive avec les latéraux, notamment surtout Aïdara qui a été mis très en difficulté avec Bamba dans un premier temps. Ouais. Et alors quand Fonseca, enfin du coup c'est pas Fonseca puisqu'il était suspendu, mais quand le LOSC fait en plus rentrer Zegrova sur l'aile, et là c'est terminé parce que Zegrova, on sait très bien que lui c'est un... Oui, là c'est bouillon, c'était sûr et certain. Ça va vite, c'est très technique, ça frappe à un moment donné, Bamba fait un arrêt, mais... On ne sait même pas comment il peut la sortir. Enfin, franchement, sur la deuxième mi-temps, ouais. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec Sébastien. On était clairement cramé, quoi. C'est,
ouais, bah,
c'est,
moi,
c'était flagrant.
C'est le sentiment.
Je n'achète pas à 100% cette théorie.
Ouais, Antoine, Antoine, je vais te relancer, hein, mais moi, c'est le sentiment, en tout cas, que j'ai eu du stade aussi. Hein, à partir de, on va dire, 60-65e, à partir vraiment de l'égalisation du LOSC, finalement, moi, j'ai senti vraiment une énorme baisse physique. Alors, est-ce que c'est parce que le changement tactique a vraiment poussé les Lensois dans leur retranchement, ou est-ce que c'est vraiment une baisse physique? En tout cas, moi, je l'ai senti. J'ai senti un signe vraiment plus de jus, énorme difficulté à ressortir le ballon. On ne ressortait plus un seul ballon. On était acculé devant le but, et ça s'est vu au nombre. Ça s'est vu au nombre d'occasions.
J'espère me tromper, mais moi j'ai peur. Enfin, j'espère vraiment me tromper, mais je crois avoir vu une équipe surtout complètement paniquée et perdue dans son football et dominée par un adversaire qui lui était supérieur.
Alors moi, je te rejoins un peu de ce côté-là, effectivement. Je pense que le fait que physiquement ce soit déjà très compliqué, que tu vois que tu commences à te faire égaliser et prendre des vagues, je pense qu'à un moment donné, effectivement, les joueurs ont peut-être eu la peur de perdre, peut-être. Mais résultat final, ils sont restés soudés et ils ont été arrachés ce match nul.
Ils ne craquent pas, et c'est quand même important de le dire.
C'est ça qui est important. Mais peut-être que je te rejoins, Antoine, peut-être qu'à un moment donné, à domicile, tu as perdu le match aller, tu n'es pas dans une bonne passe, Lille revient. Peut-être tu peux avoir les jambes qui tremblent un peu, c'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, le résultat final nous donne raison dans le sens que Lens n'a pas lâché et effectivement avec un grand Brice Samba, même si l'arrêt est magnifique, mais
on va le noter.
La frappe est sur lui.
Ouais, ouais. Tu voulais réagir, Damien, ou j'ai mal interprété?
Non, effectivement, je veux bien réagir. Effectivement, je rejoins malgré tout Sébastien et bon, quand même un peu Antoine in fine. On est peut-être une équipe en plein doute, ça se voit déjà dans les résultats. On a besoin de récupérer quand même des points, ça c'est clair et net. On en a récupéré très peu là sur les 7 derniers matchs. Et comme je disais tout à l'heure, il suffit de voir juste la réaction de Seko Fofana après le premier but. Enfin, il demande clairement aux joueurs de temporiser. On se calme, on s'enflamme pas. Enfin, concentré, on reste concentré. Je pense que effectivement sur la deuxième mi-temps, quand tu te prends le nombre de vagues du LOSC, bah, par rapport à la réaction de Fofana, dans la tête des joueurs, tu dois te dire non, mais ce match-là de 1, on ne peut pas le perdre, c'est le derby.
Il ne faut pas craquer.
On a besoin de prendre des points. Il faut vraiment, surtout ne pas en perdre sur la concurrence et sur ceux qui sont derrière nous. Enfin, je pense que l'objectif premier des joueurs, c'est malgré tout de temporiser et de se dire faut, voilà, faut.
Ouais, mais là, ça temporise un peu trop, là, parce que c'est-à-dire que là, on touchait plus un ballon, quoi. Les 20 dernières minutes, c'est le LOSC. Et on s'est dit,
Devant, tu peux plus lancer Openda. Tu voyais très bien qu'il était archi cramé. Il est resté juste à la
mettre. On avait plus
mais voilà, tu vois que le banc, malgré tout, reste très, très, très limité.
Ouais. Parce que aussi, tu alignes pas mal d'offensifs par rapport au compo d'habitude. Tu as Fulgini, tu as Sotoka, Openda sur le terrain, tu as Thomasson sur le terrain. Donc, tu as vraiment quatre offensifs, entre guillemets. Donc, tu en as un de moins sur le banc. Donc, ça a peut-être fait la différence aussi. Malgré tout, est-ce que Antoine Combes, on peut s'inquiéter de cette dernière demi-heure du match du Racing dans ce derby?
Pour moi, là, ça relativisait quand même. Tu peux pas tirer des conclusions sur 30 minutes d'un match où forcément une équipe, dès qu'elle égalise, le momentum, il change. Donc forcément, tu prends la pression. Et moi, j'adhère beaucoup plus à la théorie de la peur de perdre que de la fatigue physique. Okay. Et du doute, etc. Moi, j'adhère beaucoup plus à ça. Surtout, ce à quoi je pense, c'est qu'il y en a un qui nous a énormément manqué, c'est Medina. Autant dans l'équilibre défensif qu'à la relance.
Offensif,
parce que,
ouais.
Parce que c'est notre meilleur relanceur. Et en deuxième mi-temps, la relance, il était plus du tout. Hein. Donc, ouais. Pour moi, l'une des grosses raisons de pourquoi on a pris des vagues et des vagues et des vagues, c'est que notre soldat, il n'était pas là derrière. Hein.
Et la grinta, et la grinta. Et
bien sûr, dans ce genre de match, c'est hyper important.
Un bon alpha, ce gars-là.
Donc, on n'en a pas parlé, mais moi, je vous en parle. Moi, l'un des premiers qui m'a manqué sur le match, c'est Medina. J'avais qu'une hâte. Et je pense honnêtement que les joueurs étaient dans le même sentiment. Moi, j'avais qu'une hâte, c'est que le match se termine. Hein.
Mais si Medina, en première mi-temps sur le terrain, je suis pas
sûr. Ah oui, non,
que tu
non,
joues à 4.
Si Medina est là, tu joues comme d'habitude. Hein.
Ouais. En première mi-temps, tu te dis pas mince, Medina me manque. Pour le coup.
Pour te dire, moi, mon sentiment à la mi-temps, c'est je ne vois pas comment on peut ne pas gagner ce match.
Ouais, je suis d'accord.
Et à la fin du match, je me dis, eh ben heureusement qu'on n'a pas perdu ce match. Mais c'est... après, c'est le football, ça va très vite.
On est face à une équipe qui a pris 9 points sur 12, et encore, elle peut faire un 12 sur 12 face au PSG, il se trouve juste à la fin, mais sinon, il domine de la tête et des épaules. Mais,
et là, par contre, je suis pas d'accord avec Seb, où il disait, les joueurs ont su s'accrocher au point du match nul. C'est sympa qu'ils s'accrochent au point du match nul.
Hein, oui, malgré tout, on s'accroche. Hein. Peu importe comment, on a réussi à s'accrocher.
C'est une équipe, c'est pas un joueur.
Non, mais bien sûr,
je veux bien. Mais t'as vu, normalement, il y a 3-4-1. Après, tu me dis, en même temps, c'est normal, on a un gardien.
3-4-1, gardien, il sert à ça. Attends,
Bien sûr. Mais pour moi,
c'est pas pour rien qu'on
Lille doit largement gagner ce match. Sur l'ensemble du match, Lille doit largement gagner.
Un peu polémique. Je suis pas du tout d'accord.
Je suis pas forcément d'accord avec toi parce que c'est pas pour rien que tu as un bon gardien. C'est pas pour rien que Brice Samba est prétendu peut-être en équipe de France bientôt. Je veux dire, tu fais en sorte d'avoir aussi un bon gardien et ce genre de gardien t'aide aussi à arracher des points sur un match. Donc bon,
Bien sûr. Mais là, il est totalement dans son rôle. Mais de là à dire ils ont su s'accrocher, pour moi, ils étaient vraiment au bord de la
rupture. Même si c'est que Samba qui s'accroche, Samba, il s'est accroché pour ses coéquipiers.
Justement, Antoine, n'oublions pas que les saisons précédentes, on ne joue pas l'Europe à quelques points, à un ou deux points. L'année dernière, c'était à un point. Là, ce point-là, on le prend.
Attention, c'est pas ce que je dis.
Samba était fautif à Montpellier.
Comment ?
Samba était fautif à Montpellier.
Oui, bon, on va pas revenir sur tous les matchs précédents. Mais... Il n'y avait pas que Samba de fautif sur ce match à Montpellier.
C'est juste
mais bon,
pour Antoine, pour que Antoine compte.
Bien sûr.
Bon, allez, on va noter les joueurs, messieurs. Justement, on parle de Brice Samba. Antoine va nous noter Brice Samba sur ce match-là.
Moi ?
Ouais.
Bah, 10.
Ah, 9.
Je lui mets 8 plus un bonus de 1 parce que clairement il nous sauve un point et plus 1 parce que c'est le derby. 10, il fait le match.
Je suis d'accord avec toi. Hein. Clairement.
Merci Samba, quoi. Merci Brice. Quoi.
Le but qu'on encaisse, il en sort 2 avant quand même.
Il est monumental.
Il doit sortir la troisième au lieu d'y aller.
Mais il faut qu'il y ait un défenseur.
S'il sort le troisième, je lui mets 62 sur 10. Il est monstrueux.
Ouais, je suis bien d'accord avec toi sur ce match-là. Il était hallucinant. Et la dernière frappe de Zegrova, elle est puissante. Elle est quasiment face à face.
Ce qui est top aussi chez Samba, si je peux me permettre, c'est sa qualité de relance. Incroyable, le mec. Et tu vois le mec, mais il a zéro pression. Zéro, et il trouve que soit à droite ou à gauche avec son pied gauche, il trouve tous les joueurs pile poil. Il n'a pas fait un dégagement en touche ou quoi que ce soit. Tout était dans les pieds, tout était précis. C'est hallucinant, vraiment.
Mais je l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est le Manuel Neuer de Brazzaville, ce gars. C'est franchement, c'est l'archétype du gardien ultime.
Dans le chat, on a Jean Connery qui nous dit 12 sur 10. Il dit encore mieux que toi pour Brice Samba.
Non, la surenchère, Jean, toujours.
Et puis, j'avais pas vu, juste pour finir sur le débrief du match, mais on a un certain Greg L, qui nous dit Lille a 8 jours quand même pour préparer ce match. Lens n'en a eu que 3. Pas si logique que Lille prenne le dessus au fil du match aussi. On a le sentiment qu'avec 5 minutes de plus, Lille aurait peut-être fait céder le Racing Club de Lens. C'est vrai que ça aussi, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est vrai que psychologiquement, avoir du temps pour préparer ce genre de match, VS un match de Coupe de France au milieu de la semaine, ça peut aussi avoir un impact. Sébastien, je vais te donner à débriefer le match de Seko Fofana.
Mais je retrouve par séquence le Seko de le grand Seko, le capitaine Seko, voilà, dont on a besoin vraiment et on aura besoin de lui jusqu'au bout. Donc je l'ai retrouvé par séquence. Je trouve que il va mieux. Pareil, alors il enchaîne les matchs aussi, donc c'est compliqué. Mais son côté box-to-box, que ce soit la récupération ou devant, moi je l'ai trouvé très intéressant. Je mets un bon gros 6.
Un bon gros 6 pour Seko.
Je suis pas loin du 7, vraiment, par rapport à ce qu'il apporte aussi à cette équipe. Je vais jusqu'au 7.
Il met sa frappe de foule à la 78e.
C'est dommage qu'il la cadre pas encore, celle-là.
L'histoire aurait été belle.
Franchement,
il a deux balles. À 1-0, quand il part en contre et qu'il se fait contrer sur son tir par Fonté, pour moi, c'est le. Et je le dis à ma sœur avec qui j'étais au stade, je le dis, tournant du match. Il y avait 1-0, là tu mets le deuxième.
Ah, il peut peut-être la centrer là.
Il doit faire mieux, aussi la donner, il doit faire mieux, tout simplement, que si sa frappe doit être mieux, ou alors il doit la passer. Mais bon, facile, a posteriori. Et à un partout, quand il met sa menace juste au-dessus.
Ouais, ça aurait été beau qu'il la mette celle-ci, mais encore une fois, il faut cadrer. Damien, Angelo Fulgini.
Je lui mettrai la note de 5, du coup, parce qu'il a fait certes une très bonne première mi-temps. Par contre, la deuxième, tu voyais que physiquement, il était complètement à la rue. Et ouais, ça a été très compliqué pour lui, cette deuxième mi-temps. Mais bon, hâte qu'il revienne clairement à 100%. On voit qu'il a été vite remis dans le bain, peut-être trop vite, justement. Mais c'est un peu par la force des choses. Il n'a pas beaucoup joué en Allemagne, il ne faut pas l'oublier. Seulement 7-8 matchs et juste quelques entrées, quoi. Enfin, pas titulaire, donc voilà, c'est compliqué, mais on sent qu'il a du ballon et Fulgini, c'est plus un coup pour l'année prochaine que pour cette année, même s'il nous rendra de très bons services.
5 sur 10. On termine Antoine Combe avec Loïs Openda.
Ah, compliqué. Ah, c'est compliqué. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps. Ce qui est dommage, c'est les hors-jeux. Ce qui est vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment un coup à jouer. Ce qui m'a déçu, c'est qu'on n'ait pas assez joué sur Fonte, qui avait pris un carton jaune et où là aussi il y avait quelque chose à faire et où il m'a pas paru serein tout le long du match. Et c'est autant imputable à lui qu'à l'équipe. Donc, je lui mettrai malheureusement 4 parce qu'il doit faire mieux sur son positionnement. Et si il corrige ça sur le match, il a plusieurs face-à-face qui peuvent être déterminants. Donc,
même si c'est face-à-face,
il n'avait pas forcément anticipé la lenteur de Fonte, quoi. Il devait se dire que
c'est face-à-face, il les joue et il les rate quand même.
Bon, à deux reprises, on est un poil long sur la passe. Franchement, sur la passe, sur deux hors-jeu, on est un poil trop long sur la passe. Franchement, on peut faire mieux à ce niveau-là.
Allez, on conclut ce débrief avant de passer au quiz pour un carton rouge ou un carton vert à décerner sur ce match-là. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer ? Monsieur Damien, vas-y.
Carton vert pour les tifos. C'était beau. Belle animation en tribune. Franchement, c'était chouette, même si on a senti en deuxième mi-temps que tout le monde était très crispé. Mais les tifos sublimes. Chapeau au sup.
L'ambiance en première mi-temps était un peu différente de celle de la deuxième mi-temps à partir de l'égalisation du LOSC, encore une fois.
On se crispe avec l'équipe.
On a senti la crispation dans les tribunes arriver. Quelqu'un d'autre pour un carton ?
Moi, je rejoins Damien. Voilà, c'est important de le dire. Voilà, c'est franchement… On s'y attendait, j'avais demandé, je vous avais demandé avant le match de m'envoyer au cas où des photos des tifos, mais bon, ça va, à la télé, on a bien tout vu. Et parce que c'était sûr, vu le feu qu'il y a un peu cette année, j'ai envie de dire, et les résultats, c'était sûr qu'on allait avoir un stade magnifique. Et c'était le cas. Enfin, franchement, quelle fierté. Bravo.
On a dans le chat Stéphane qui nous dit carton rouge aux abrutis qui ont déployé la banderole. Monsieur le préfet, 3 petits points à abattre. Bon, je...
Ça fait partie du derby.
Oui,
il y a pas de... Justement, moi, à l'inverse,
ça me choque pas des masses, mais bon, après, voilà.
Je mets un petit carton vert sur l'absence d'incident, parce que par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, c'est important de pointer aussi qu'on peut avoir des derbies avec un parquage plein sans que ça se passe mal.
Voilà. Allez, terminé avec Antoine.
Et moi, un carton bleu pour Brice Samba.
Il n'y a pas de carton bleu.
Ouais, moi, je le donne, carton bleu, Brice Samba en équipe de France. Voilà.
On en parle dans le débat dans un instant de Brice Samba, justement, en équipe de France. Messieurs, mais d'abord, on joue. C'est l'heure de la mi-temps pour Culture Senior avec pas mal de temps additionnel, c'est vrai. Mi-temps et quiz pour jouer ensemble en équipe avec Sébastien et Antoine contre Antoine Combe et Damien. C'est parti. Alors, Lens éliminé en quart de finale de Coupe à la Beaujoire. Ça a rappelé des mauvais souvenirs aux supporters. Ça vous dit quelque chose ?
Le final à la Beaujoire ? Oh, la compo du Les Herbiers.
Les Herbiers Racing Club de Lens en 2018. 0-0, défaite au tir au but. Donnez-moi les joueurs lensois qui ont joué ce match. Pas forcément les titulaires, mais qui ont joué ce match. On va commencer avec l'équipe Sébastien Antoine. C'est parti.
Lucas.
Non.
Trop tôt.
Antoine, il est deg. 2018.
Merde. Prenons le temps de la réflexion. Prenons le temps de la réflexion, parce que sinon le quiz est déjà fini. Donc voilà. Sébastien Antoine.
Damien Antoine.
Non, c'est Sébastien Antoine pour l'instant.
Ah, tu leur laisses ?
Ouais, okay, je leur laisse la parole, Sébastien Antoine. Allez-y.
Aïdara ?
Pas d'Aïdara non plus.
Non, mais sérieux. C'est loin 2018.
Non, mais les gars, sérieux, quoi. Damien et Antoine Combe, allez-y.
Je pense que c'est une période où on l'a tous éjecté de notre mémoire, là.
Moi, je peux en dire un, je pense être sûr. Vas-y, je dirais Bellegarde.
Eh ben, Bellegarde est rentré en jeu, tout à fait. Jean Ricknard, Bellegarde a joué. Il est.
Allez hop, rentré. Terminé, bonsoir. On passe au débat.
Non, mais franchement, mais les gars, mais.
C'est encore à nous ou...
Ah bah non, bah.
Ah, c'est gagné, c'est bon. Après, moi, quoi. Je pensais à Yannick Gomis.
Non, mais.
J'avais John Bostock.
Non, c'est plus récent que ça, Gomis. Hein. C'est plus récent que ça.
Encore, c'est... Ouais, c'est la saison d'après. Ouais,
Bostock, ouais. Non, il y est pas.
Pas de Bostock non plus.
Il y a Kiki Lopez, l'idole de.
Dans les buts, le coach, c'est Sikora. Le coach, c'est Sikora. D'accord.
C'est la saison
où on rappelle le premier match déjà. Bon, voilà. Dans les buts, on a Vachou. Svetinovic, Jadjedje. On a Svetinovic, Duverne, Gersbach. Quand même à gauche. On a Clément Chantôme, Markovic, Zubir. C'est cette période-là,
oh,
hein, les gars.
Oh la belle épique. Oh, la belle
Kevin
épique.
Fortuné, Christian Lopez, Walid Mesloub. Et Souley Diarra et Cyril Bayela qui rentrent également en jeu avec Jean Ricknard, Bellegarde.
Tu vois, dans mon esprit, c'était même pas possible d'arriver en quart de finale avec cette équipe. Donc,
c'est oui. Pour ça que...
Oh là 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 là, la lose. Oh là là, ça nous manque également. Hein, parce que lui, il aurait trouvé des joueurs. Hein. Mais c'est gagné pour Antoine Combe et Damien. C'est gagné pour
Antoine Combe
et Damien.
De toute façon, pour moi, le quiz, c'est un peu comme Lens avec la Coupe de France. Quoi. C'est un truc comme ça, de temps en temps, tu vois. Tu crois, et puis à chaque fois, c'est foiré. Quoi. Ma copine, elle va encore me demander, là, je vais sortir de l'émission. Alors, t'as gagné le quiz ? Bah non.
Je vous redonne une chance, les gars, en plus. Quoi.
Non, j'ai fait Seb, c'est mort.
Au moins, il n'a pas dit Morera, Seb. Bon, allez, deuxième mi-temps, les gars, c'est parti. On va entamer le débat sur Brice Samba. On en a parlé, un étincelant depuis son arrivée dans les buts du Racing cette saison. Match après match, hein, il a prouvé ses qualités jusqu'en arriver à être un potentiel sélectionnable hein, dans un futur proche de l'équipe de France. Nouvel exemple ce samedi, on en parlait, où il a sauvé littéralement hein, Lens d'un revers sanglant. Hein, il a ce point, si on peut l'attribuer à quelqu'un, c'est peut-être à lui hein, quand même. 6 arrêts monstrueux sur ce match-là. Alors Didier Deschamps va prochainement annoncer sa liste hein, pour l'équipe de France. On sait que Lloris et Mandanda, ça y est, on tirait un trait sur l'équipe de France. Ça ouvre des portes hein, pour des gardiens. Si Samba est voué à être en équipe de France, on va le découvrir assez vite. Devra-t-il ? Et ça, c'est la question du débat qui peut faire réfléchir, qui peut peut-être, pourquoi pas, faire un petit peu réagir négativement. Mais devra-t-il envisager de quitter le Racing Club de Lens pour jouer à un niveau encore supérieur en cas de sélection en équipe de France ? Je vais lancer Antoine Combe sur le débat. C'est parti.
Si on répond juste à la question est-ce qu'il doit aller en équipe de France, pour moi oui, clairement, surtout que là il y a les opportunités avec les départs en retraite de Lloris et Mandanda. Mmh. Même s'il y a la volonté, bon, il y aura Mike Maignan qui est forcément devant dans la hiérarchie, même s'il a la volonté après de mettre un jeune pour la postérité, pour moi c'est quand même important d'avoir un deuxième taulier et je pense que Samba peut largement y prétendre, de par le bonhomme déjà. Mais en plus, de par le niveau, tout simplement, qui montrait déjà à Nottingham et qui montre depuis le début de saison à Lens. Là, je viens de voir au niveau des expected goals against, donc les buts qu'on aurait dû prendre, on aurait dû en prendre 9 de plus.
Donc ouais, à partir de là. Sur votre saison, ouais.
Voilà, donc.
4 contre Lille.
En plus.
Peut-être pas 4 contre Lille, mais je crois que contre Lille, on est quasiment à 2. Hein. On est quasiment à 2,
ouais. Ouais, on n'est pas loin du 2, ouais. Donc tout ça m'amène à dire que oui, il doit aller en équipe de France, au moins pour voir.
Après, mais est-ce qu'il pourra rester au Racing Club de Lens s'il est en équipe de France ? Est-ce que le niveau sera assez haut pour perdurer en équipe de France s'il reste au Racing ? C'est ça la question, finalement.
Le problème, c'est que Deschamps aime bien avoir des joueurs qui jouent dans un gros club pour pouvoir les sélectionner. Après, Jonathan Clauss est arrivé en équipe de France en étant à Lens.
Oui, ça fait un peu pchit.
Ça fait un peu pchit, mais pour autant, tu peux quand même arriver en équipe de France tout en jouant à Lens. Mmh. Et c'est justement aussi le message qui, je pense, est un peu porteur pour le club, c'est que venez à Lens, regarde, Salis Abdoul Samed est arrivé titulaire à Coupe du Monde avec Partey. Donc, et pour autant, à Clermont, il n'avait pas sa place de titulaire. Donc pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, surtout avec la qualité de jeu que présente Lens. Mais c'est sûr que les qualifications européennes seront forcément un gros plus pour garder le joueur. Et après, s'il n'y a pas qualification cette année, je ne le vois pas partir, par contre.
Ouais.
À l'inverse, je prends le débat dans l'autre sens, je ne vois pas partir, même si...
il pourrait être aussi sollicité.
Oui, bien évidemment, mais moi je ne vois pas partir.
Mais tu penses pas
même s'il a une discussion avec Deschamps et Deschamps lui dit tu vas à l'OM et je te prends, je ne suis pas sûr de le voir partir, tu vois.
Ouais. Même s'il a encore répété, hein, Brice Samba, c'est son objectif, hein, l'équipe de France, c'est son rêve, c'est son objectif. On a aussi vu le gardien du LOSC encenser Brice Samba en disant il mériterait d'aller en équipe de France. Sébastien, est-ce que pour toi, si Brice Samba est sélectionné en équipe de France, est-ce que rester au Racing Club de Lens serait un niveau suffisant pour perdurer en équipe de France, pour performer?
C'était la même question, en fait.
Bah oui, mais c'est le débat. Donc il n'y a pas de question.
Écoute, déjà, faudrait qu'il soit sélectionné et il y a du monde. Il y a beaucoup de gardiens.
Ouais.
Je ne sais pas, il y en a qui s'y connaissent plus que moi. Est-ce qu'il était en sélection de jeunes en équipe de France déjà?
Ouais. J'ai pas la réponse. Je t'avoue que j'ai pas la réponse. J'ai pas.
Il me semble que oui. quand il était à l'OM et qu'il est arrivé à 17 ans, il me semble qu'il était déjà dans les sélections jeunes. Mais à vérifier quand même.
Parce que le souci de l'équipe de France, si tu veux, c'est qu'une fois que tu es dans les tablettes et que tu fais toutes les sélections, bah forcément, on suit ta progression et puis tu as plus de chances d'intégrer après le groupe A. Voilà.
Pour te donner la stat, il a été sélectionné avec les moins de 19, mais il n'a pas fait un seul match.
Ok, voilà. Donc, il n'a pas fait, pas eu 19, pas espoir, pas olympique, pas tout ça, tu vois. Donc, je sais, généralement, ça se passe un petit peu comme ça à la Fédé. Donc, aujourd'hui, effectivement, de toute façon, de ce qu'on voit, moi, je trouve qu'il mériterait effectivement amplement d'intégrer le groupe France. Maintenant, il y a encore du monde devant lui, moi, je pense. Donc, ça me paraît compliqué. Et puis, si c'est le cas, je suis un peu de l'avis d'Antoine Combes, c'est-à-dire que si Lens ne se qualifie pas pour l'Europe en fin de saison, je pense qu'il partira. Parce que de toute façon, si en plus de ça, il est sélectionné, il y aura des clubs qui vont se repositionner. En plus, il est connu déjà en Première Ligue parce qu'il en vient. Vu la saison qu'il fait, si tu ne te qualifies pas pour l'Europe l'année prochaine, je crois que tu peux...
D'où la question,
ouais. Tu peux peut-être dire au revoir.
Ouais, ouais. D'où la question de ce débat.
Au revoir. Tout dépend les finances du club, tout dépend ce que tu arrives à faire et ce que tu te qualifies.
Ouais. Bon, je vais passer la patate chaude à Antoine. Antoine, sur ce débat, Brice Samba devra-t-il quitter le Racing Club de Lens pour jouer à un niveau encore supérieur en cas de sélection en équipe de France?
Déjà, moi, j'aimerais juste souligner le fait qu'en fait, il est arrivé au RC Lens en même temps que Hervé Sekli.
Ouais.
C'était le gardien qu'il avait complètement relancé, voire fait exploser à Caen.
Ouais.
Tout ça, ça a été bien préparé. En fait, la venue de Brice Samba, elle s'est pas faite. Elle a été très très bien préparée. C'était presque tapis rouge. Donc, je pense que déjà le fait qu'il y ait Hervé Sekli, qui est quand même un proche de Leca et Cahuzac, on a déjà un indicateur sur le fait que Brice Samba, il est là pour durer. Mais la condition sine qua non, là je vous rejoins aussi, c'est qu'il faut absolument que le RC Lens se qualifie pour l'Europe. Et après, pareillement que Lafond, Lafond a été sélectionné de manière répétée en étant gardien du FC Nantes. Donc pour moi, l'avenir en bleu de Brice Samba n'est pas forcément conditionnable à un départ à l'étranger. Maintenant, je n'ai pas fait une comparaison un peu osée avec Manuel Neuer pour rien. Le Bayern de Munich ou d'autres très gros clubs, à mon avis, sont en train de découvrir le monstre. Et c'est un peu comme Seko Fofana cet été, c'est-à-dire qu'à un moment, Brice Samba, s'il a une proposition pour aller rejoindre un très très grand club européen et que Lens s'y retrouve financièrement, bah malheureusement, Europe ou pas, je pense qu'il y a des offres qui ne se refuseront pas et qu'à ce moment-là, Brice Samba, effectivement, pourrait faire... pourrait faire ses valises. Mais globalement, je pense qu'on est quand même sur un cycle où je vois Brice Samba, si Europe il y a, rester au RC Lens une saison de plus.
Malgré le fait qu'il soit sélectionné en équipe de France, parce que c'est vrai que... Didier Deschamps conditionne souvent aussi, hein, la Coupe d'Europe, pour lui, c'est un petit peu le Saint Graal pour pouvoir jouer en équipe de France, même s'il y a eu...
Je pense qu'il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille.
Ouais, je suis d'accord avec toi. On va terminer avec Damien sur le débat. Est-ce que tu as des arguments aussi? Est-ce que tu es d'accord avec ce qui a été dit? Est-ce que tu penses que Brice Samba pourrait être en équipe de France et rester au Racing Club de Lens, ou est-ce qu'il devrait forcément partir ailleurs?
Alors, pour moi, non. Pas besoin de partir ailleurs, okay. Très clairement. Après, par rapport à la philosophie de Deschamps sur les joueurs qui jouent la Coupe d'Europe, enfin aujourd'hui, citez-moi des gardiens français qui jouent en Coupe d'Europe.
Maignan.
Hormis lui. Enfin, Maignan.
Ah, t'as demandé de citer
La Fon. Oui, mais hormis Maignan qui n'a pas joué, il a été blessé toute la partie. Mendy. Oui, mais tu sais qu'avec le FC Nantes, il ne va pas y aller. Mendy, c'est sénégalais aussi. Édouard Mendy est sénégalais. Oui, mais Mike Maignan, il revient seulement de blessure. Est-ce qu'il va savoir perdurer au haut niveau tel qu'il l'a été l'année dernière avec l'AC Milan? Ça, c'est aussi une question à se poser. Lafond, bon, c'est un one-shot avec Nantes, la Coupe d'Europe. À voir comment lui, son intersaison va se gérer.
Il gagne après, la Coupe de France, il est en Europe les prochaines.
Le marché, à voir s'il la gagne. Mais je suis d'accord avec toi, Seb. À voir s'il la gagne, par contre, sur ça. Par contre, le marché des gardiens, enfin, le marché des transferts des gardiens, c'est quand même un marché très spécifique. Enfin, on parle d'un poste ultra, ultra, ultra spécifique. Pour moi, Brice Samba n'est pas arrivé au Racing Club de Lens pour faire un tour et puis s'en va. Ça, c'est clair. Enfin, là, je rejoins carrément Antoine. Pour moi, il est inscrit sur un projet long, un peu à la même manière que Seko Fofana. Je le vois pas partir parce qu'il n'y aura pas d'Europe. Et là, clairement, pour moi, enfin, Alphonse Areola est troisième gardien de l'équipe de France en étant remplaçant à West Ham, qui est 17e de PL ou 18e. Enfin, il ne joue pas. Ça fait 3 ans qu'il ne joue pas, Alphonse Areola. Il est sélectionné. Donc, pourquoi pas Brice Samba? Ensuite, autre chose à penser, dans la philosophie de Deschamps, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Un gardien qui fait beaucoup, 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 beaucoup d'arrêts, mais parce que son équipe subit énormément, ou un gardien qui va savoir faire un arrêt dans le match alors que son équipe ne subit pas? Quelle est la philosophie de Deschamps par rapport à son animation défensive? On sait très bien que Deschamps, ce n'est pas quelqu'un qui aime subir. Donc, il lui faudra quelqu'un dans les buts qui sache faire l'arrêt qu'il faut au bon moment. Ce que Brice Samba a su très bien faire avec le Racing Club de Lens lors de la première partie de saison. Donc, moi, je pense que le poste de gardien, c'est quand même très spécifique. Brice Samba a carrément toutes ses chances de son côté parce que, comme le dit Antoine, c'est un monstre.
Ouais.
Jeu au pied, monstrueux. Je pense qu'il n'y a aucun équivalent aujourd'hui dans les gardiens français à Brice Samba sur la qualité de jeu au pied. Et ça, pour Didier Deschamps, ça peut être une différence très notable.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Ah, tu m'as convaincu, Damien.
J'ai envie d'envoyer un courrier à Deschamps.
T'as trouvé les arguments, Damien. Bien joué. Hein,
donc bravo, c'est bon. Brice Samba est en équipe de France et à Lens l'année prochaine. Voilà, c'est tout. Allez, hop.
Bon, dans le chat, on a quand même Stéphane qui nous dit: pour moi, si pas de Coupe d'Europe l'année prochaine, Samba devra partir à 28 ans. S'il veut atteindre son objectif de jouer en équipe de France, il sera obligé de trouver un club qui la joue. C'est l'avis, lui, de Stéphane. Dans le chat de l'émission.
Attention quand même à la grosse offre. Attention à la grosse offre du gros club, de l'offre qui ne se refuse pas. C'est le seul truc qui peut. Enfin, voilà. S'il y a un top, top club européen qui vient, je pense que là, tout le monde se couchera.
Il a combien d'années de contrat?
Bon, il a signé
2026.
4 ans, non? 4 ou 5 ans, 4 ans.
Et 5 ans. Et 5 ans.
5 ans. Ouais, gros contrat. Bah, en même temps, tu ramènes son entraîneur des gardiens. Je veux dire, c'est pour, comme disait Antoine, s'inclure hein, un petit peu dans le projet du Racing. On parle de Coupe d'Europe, on parle de Brice Samba. S'il reste, il y a la Coupe d'Europe. Et ben, la Coupe d'Europe, ça passe par le match de Clermont qui arrive dimanche, notamment. Ça se passera au Stade Gabriel Montpied, dimanche 13h. Hein. Les matchs de 13h, ça nous a vraiment réussi hein, ces derniers temps, ces dernières saisons pour le Racing. Une première partie de saison encourageante, les Clermontois eux marquent un petit peu le pas depuis le début janvier, mais un petit peu comme le Racing finalement, en termes de stats, en termes de victoires. Ils ont même une victoire de plus que le Racing Club de Lens sur cette période-ci. Ils sont bien installés, en tout cas les Clermontois dans le ventre mou, hein, puisqu'ils sont 11e, 12 points d'avance sur la relégation. Tranquillement, ils ont le temps de voir venir. Ils sortent d'une victoire à Toulouse, hein, alors des Toulousains qui avaient joué cette semaine en Coupe de France également. Le Racing, lui, qui doit eh bien impérativement se relancer maintenant s'il veut poursuivre son rêve de Coupe d'Europe. Il a cramé quelques jokers hein, déjà le Racing. Est-ce que c'est pas le moment de se relancer face à des équipes sur le papier encore une fois prenables pour le Racing hein, qui ensuite enchaînera avec Angers. Malgré tout, Clermont gagne peu à domicile et le Racing est quand même assez en difficulté, hein, a du mal à gagner à l'extérieur. Antoine, est-ce que ça sent pas le match nul, ce Clermont-Lens?
Bah, ça sent déjà le match compliqué. Ouais. Après, le score, ouais, non, mais après, c'est, enfin, là, c'est plus que de parler de score, en fait, j'ai envie de parler de ce qu'il nous faut. Et là, clairement, je pense qu'on est tous d'accord. Il faut absolument qu'on réenclenche une série de victoires. Et comme tu l'as dit, clairement, même si c'est à l'extérieur, même si c'est une équipe compliquée, coriace, tout ce que tu veux, même si Gabriel Montpied, c'est un bourbier, il faut absolument gagner, là, en fait. J'accepte le bon résultat contre Lille que si il est valorisé par une victoire à Clermont, qui sur le papier en fait serait logique si on se projette sur un RC Lens qui veut finir à minima en Europa League.
Ouais, c'est sûr que voilà, on arrive un petit peu, pas encore dans la dernière ligne droite. Hein. Il y a la pause équipe de France et puis après le mois d'avril va s'entamer. Il y aura les deux derniers mois où va falloir vraiment cravacher. Mais si on veut vraiment commencer à se relancer, Sébastien, c'est peut-être le moment là hein, d'enclencher la troisième vitesse face à des équipes prenables, en tout cas plus prenables peut-être que des équipes un peu plus fortes. C'est le moment là de se relancer, de se redonner de l'allant et de retrouver la réussite.
J'ai exactement le même avis qu'Antoine. Je pense qu'il a exactement tout dit. Silence veut effectivement, aujourd'hui, ils vont avoir une semaine pour préparer le match, ce qui ne leur est pas arrivé depuis un bout de temps. Donc déjà, ils vont pouvoir travailler tactiquement, reprendre des couleurs, du physique pour aborder Clermont à Clermont où effectivement, c'est... ça va être chaud patate. Mais maintenant, si Lens, effectivement, avec les résultats de ce week-end, et si on veut valoriser effectivement ce point pris à domicile contre Lille, il faut aller gagner à Clermont. Si Lens veut finir effectivement et se donner les chances de faire mieux encore que l'année dernière en termes de points aussi, il faut aller gagner à Clermont. Ils sont 11e, tu es largement capable d'aller gagner à Clermont. Maintenant, on sait que Lens, ces derniers temps, c'était compliqué à Strasbourg, voilà, dans les équipes comme ça. Même à Nantes, en Coupe de France, même si c'était encore différent. Mais... Donc voilà, ça va être compliqué, mais je pense que la semaine va leur faire du bien. Ils vont pouvoir reposer les bases, retravailler. Et moi, ça va être un match très compliqué, mais je les sens bien. Moi, je pense que ça va leur faire du bien cette semaine, je pense.
On est à la 26e journée à la fin du week-end. Le Racing Club de Lens a 51 points. L'année dernière, le Racing Club de Lens a eu 51 points à la 32e journée. Donc malgré tout, on est sur des bases encore meilleures hein, que la saison dernière, qu'il faut fructifier, qu'il faut maintenant réussir à bonifier hein, malgré ce petit moment de moins bien. Damien, face à Clermont, c'est le genre d'équipe face à laquelle il faut réussir à gagner.
Oui, alors pour autant, c'est souvent une équipe en plus qui ne nous réussit pas très franchement quand on va là-bas. On a quand même difficultés à jouer à Clermont. Mais clairement, si demain on veut être un prétendant à l'Europe, si on veut aller voir plus haut, si on veut aller voir les étoiles ou bien, eh bien, il faut gagner. Il n'y a pas. Si on veut retrouver justement des couleurs, comme le disent Seb et Antoine, bah là, cette semaine peut nous permettre de bien travailler et d'aller chercher une belle petite victoire. Il serait temps qu'on aille chercher même une victoire à l'extérieur. Et puis. Et puis voilà, mais est-ce bon, que le mois de mars
pour mieux voir les étoiles, je trouve ça beau comme image.
Ouais, on est un peu romantique ici chez Culture 101. Mais alors Sébastien, juste une petite question. En tant que joueur, enfin ou même dans les équipes professionnelles, est-ce que le mois de mars justement, c'est pas un mois qui est tournant, enfin c'est clairement le tournant de la saison, c'est pas le mois où tu glanes des points et qui te lance clairement vers ta fin de saison et vers la place que tu auras à la fin.
Quand tu vois les résultats que Lens a proposé cet hiver, Le mois de mars correspond gentiment à l'arrivée du printemps. Mmh. Donc, généralement, ça fait du bien à l'organisme. Et c'est effectivement, et c'est le dernier mois avant le sprint final, avant le money time. Voilà, parce que le money time, c'est les deux derniers mois. Voilà, c'est clair et net. Donc, cibler le mois de mars très exactement. En tout cas, voilà ce qui se passe pendant le mois de mars. On commence à avoir les jours qui se rallongent de plus en plus. On a peut-être un peu de pluie, hein, effectivement, parce que c'est le mois de mars. Mais on a le soleil aussi qui brille un peu plus. On a, voilà. Et forcément, ton organisme, quelque part, tu sors de l'hiver, donc tu vas mieux. Mais ça, c'est bon pour Lens, mais c'est bon pour toutes les autres équipes, effectivement.
Ouais, mais on est d'accord.
Mais, hein. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est un mois charnière. Voilà, c'est un mois charnière. Ou après, tu arrives au printemps et puis là, après, c'est money time. Après, tout dépend comment Francaise a préparé son équipe aussi durant la trêve, en fait, avant la Coupe du Monde. Il y a eu une préparation qui a été faite. Moi, j'ai connu des entraîneurs qui faisaient des préparations pour pouvoir être bons sur la deuxième partie de saison, sur l'an, par exemple. La première partie, on était moins bons et deuxième partie, on explosait tout le monde. Voilà, parce qu'on a été préparé comme ça. Donc, à savoir comment Francaise a préparé l'équipe de Lens. Est-ce que c'est pour les préparer pour les deux, trois derniers mois? J'espère que oui, au vu de cette fatigue que je sens sur janvier-février.
Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, tu n'étais pas trop partisan, Antoine Combes, du coup physique hein, sur cette deuxième mi-temps face au LOSC. Mais malgré tout, est-ce que tu sens que c'est le moment de se relancer? Est-ce que tu sens qu'il faudrait peut-être faire tourner, faire peut-être jouer un petit peu plus les joueurs sur le banc aujourd'hui? Ou alors, finalement, c'est reparti, on met la même équipe?
Ben, j'ai l'impression que le match de la relance, on le dit à chaque match.
Ouais.
On le disait à Montpellier.
Ça va bien finir par arriver.
On se disait, bon, le derby, c'est le moment pour se relancer. Et là, maintenant, bon, clairement, ce serait bien. Donc, oui, forcément, j'ai envie de te dire. Ce qui m'attriste, c'est qu'on se le dit à chaque match. Parce que ça veut dire qu'on ne s'est pas relancé au match d'avant. Mais déjà, j'espère qu'on va pouvoir retrouver Medina. Je ne sais pas trop son état physique, si c'était juste le temps d'un match ou ce serait un peu plus long. Ouais, j'ai l'impression qu'on est un peu en manque d'inspiration sur qui mettre devant en ce moment. Ça a beaucoup alterné, alors qu'on avait une formule qui marchait très bien sur la première partie de saison avec Da Costa, Sotoka et Openda. Et on a un peu perdu cette potion magique comme ça, du jour au lendemain. Et là maintenant, même si Fulgini et Thomasson font des bons matchs, ils arrivent à faire des passes des, à marquer, etc. Moi, j'aimerais bien revoir surtout Da Costa titulaire. Moi, il me manque. Voilà, il y en a un qui a la tête dans les étoiles, et ben moi, il y en a un qui me manque, c'est Da Costa. Et j'aimerais vraiment le revoir parce qu'il a fait des bonnes entrées sur les derniers matchs. Bon, un peu moins contre Lille parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de le voir. Mais moi, c'est vraiment un joueur que j'ai envie de voir parce que c'est un joueur qui, sur la passe, avec sa qualité, comme les autres, hein, mais vraiment, c'est le joueur qui nous a un peu boosté sur certains matchs, par exemple à Marseille, et que j'ai vraiment envie de revoir. Après, au milieu de terrain, tu es assez limité. Il y a un tel écart de niveau entre Samed Fofana et
Mais encore une fois, on parle de fraîcheur, on parle de fraîcheur physique, on parle d'enchaînement des matchs. Salis Abdou Samed, il a joué 90 minutes, hormis le match où il a été suspendu face à Strasbourg et le match où il est blessé face à Nice. Il a joué 90 minutes de tous les autres matchs de la saison.
Tu vois ce que je veux dire? Après, j'ai envie de te dire, le mieux placé pour juger de l'état physique d'un joueur, c'est d'abord le joueur lui-même et l'entraîneur, parce qu'il le voit tous les jours. Donc, je pense qu'il y a forcément des données qui sont récoltées, parce qu'on fonctionne beaucoup à la data, notamment sur les données physiques. Donc, à partir du moment où les données sont toujours les mêmes d'un match à l'autre, en termes de sprint, etc., et que le joueur se sent à 100%, bon, moi, je ne ressens pas un Samet fatigué sur le terrain. Tu vois.
D'accord.
Bon. C'est plus un manque d'idées qu'en manque de fraîcheur physique. Et c'est un peu le cas pour tous. Hein. Donc, je ne suis pas sûr que vraiment la solution ce soit de faire tourner. Pour moi, c'est surtout de retrouver la confiance qu'on avait. Parce que, autant en première partie de saison, tu avais une confiance dans le sens où tu commençais le match, tu savais que tu allais le gagner. Là, c'est est-ce qu'on va réussir à marquer? C'est déjà beaucoup plus compliqué parce qu'on a un gros manque de réussite devant le but. Donc, t'es plus du tout dans le même état d'esprit et du coup je pense que sur un joueur ça peut faire beaucoup et pour moi la solution c'est pas forcément d'aller faire tourner. Si tu veux faire tourner, c'est peut-être au niveau des pistons parce que tu perds pas forcément en qualité. Moi je partirais pas forcément de je serais pas partisan de on change tout et on essaie de retrouver parce que justement on essaie de changer
Ça marche pas,
c'est pas forcément la solution.
Ok, ok. Antoine, quelles sont tes attentes, toi, au-delà de se relancer sur ce match-là? La victoire et rien d'autre ou, voilà, quelles sont tes attentes sur cette rencontre à Clermont?
Ah non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec la question, mais qui était plus qu'une question de Damien, sur le fait qu'effectivement, ce match, c'est vraiment un tournant. Et je pense qu'à plus d'un titre, là, tu joues contre deux équipes qui sont abordables dans un moment où tu n'es pas bien et tu sors d'un match compliqué dans une deuxième mi-temps compliqué dans un derby. Et tu as des concurrents, entre guillemets, les clubs qui t'entourent au classement sont en train de stagner. Et d'ailleurs, je tiens à le rappeler, hein, on était en train de dire que Lens était en train de vivre un coup de moins bien, etc. Mais on se rend compte que Monaco, Rennes, ouais. Marseille aussi s'est fait sortir de Coupe de France de manière... eux, pour eux, c'était vraiment une faute professionnelle. Donc au final, on se rend compte que c'est le lot d'une saison et pour tous les clubs du championnat, sauf le Paris Saint-Germain. Donc là, aujourd'hui, on a peut-être. C'est nous, il faut absolument maintenant qu'on sorte de ce moment, cette stagnation comptable. Ouais. Et pour moi, j'ai presque envie de te dire qu'aujourd'hui, oui, jamais je voulais dire des choses comme ça en début de saison, mais c'est aujourd'hui, c'est se rendre à l'évidence. Je pense que les trois points aujourd'hui sont vraiment presque plus importants que la manière.
Bah, oui.
Et je vois vraiment ce match, cette double opposition Clermont-Angers. Souvent, on galvaude ce terme, et là, vraiment, comme le tournant de la saison du Racing Club de Lens.
Si je peux me permettre,
vas-y rapidement, c'est vrai.
Ouais, stagnation comptable. Franchement, tu prends quand même des points. T'en perds pas beaucoup des matchs, même si on fait des nuls. Mais tu prends des points. Tous les week-ends, tu prends des points.
Ça reste une forme de stagnation.
Mais comme tu le disais.
Tu stagnes, mais les autres ne sont pas beaucoup mieux.
Oui, c'est ça. Donc, effectivement, mais. Là, quand on voit le week-end dernier, comme on le dit, on a pris un point. On a pris un point sur Rennes.
Ouais, on est d'accord.
Voilà, on reste collé. Donc, mais oui, bien sûr, par rapport à la première partie de saison qui a été juste affolante aussi. Ouais. Donc voilà.
C'est un record, hein, de toute façon. Comme disait Brice Samba, tu peux pas. On a habitué les gens à gagner, mais c'est quasiment impossible pour un club encore de l'envergure du Racing Club de Lens d'enchaîner une saison complète à ce niveau-là. Il faut juste s'en rendre compte. Il faut réussir aussi à limiter la casse, courber le dos et être toujours dans le coup, dans la dernière ligne droite. Et c'est dans la situation dans laquelle est le Racing aujourd'hui. Maintenant,
il faut réussir à
repartir, c'est tout.
Tu prends Rennes, leur double confrontation à venir, c'est à Auxerre, qui semble un peu revenir, et à Paris. Et t'as Lille qui est derrière toi, qui est pour moi aussi le danger. Ils viennent de perdre Diallo jusqu'à la fin de la saison. Là, c'est le moment, clairement. Et je pense que là, il ne faut pas galvauder le terme. Là, cette fois-ci, on peut commencer vraiment à parler d'un tournant de saison, comme l'a très bien dit Damien, parce que je pense que là, on attaque le début du sprint final.
On est d'accord, et c'est le sentiment que je partage avec vous également. On va pronostiquer ce match-là, hein, on va voir ce que vous en pensez. Est-ce que le Racing va se relancer, va relancer la machine face à Clermont dimanche à 13h? Stade Gabriel Montpied, Damien, ton pronom.
1-0 pour le Racing.
Antoine Combes.
Bon, là, par contre, je ne vais pas changer mon pronom, 1-0 aussi.
Seb Dallé.
1-2.
Antoine.
2-0.
Je prendrais bien le 2-0. Deux buts, ça ferait du bien. Zéro encaissé, ça ferait beaucoup de bien.
Non, moi, je ne prends pas le 2-0. C'est à domicile. C'est Clermont 2 et Lens 0. Non, c'est ça que tu veux dire.
Moi, je parle pour le Racing Club de Lens.
Ah ouais, évidemment. D'accord.
0-2. Moi, je l'avais compris comme ça, Seb.
Ah ouais, ouais, bah, pas moi. Non.
Bon, réponse dimanche, hein, 13h, pour ce match face à Clermont. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On le débriefera, hein, ce match, la semaine prochaine, pour savoir si le Racing a réussi à se relancer. Merci d'avoir suivi Culture Sans Ailleurs. Merci à Antoine Combes, à Damien, à Seb Dallé, à Antoine, à Baptiste, à la technique ce soir. Merci. Messieurs, merci à tous ceux qui étaient dans le chat, qui ont laissé des commentaires, qui nous suivent en live, qui nous suivent en replay également sur YouTube. Continuez à liker, continuez à commenter nos émissions, à vous abonner à notre chaîne, ça nous fait plaisir. Et puis à nous écouter également sur les autres plateformes, on est sur Spotify, on est sur Deezer et compagnie. Merci beaucoup, à bientôt, à lundi prochain, passez une belle semaine et allez le Racing. Ciao, ciao.
Merci à vous.
Salut. Ciao.